Et oui, le Consistoire, toujours là pour vous, et c'est justement l'émission du Consistoire qui arrive. Il est 12h, presque passé de 7 minutes.
Trouver un restaurant, une épicerie, un traiteur cachère sur la Côte d'Azur, connaître l'agenda des manifestations, les informations des consistoires de la région, convertir une date hébraïque, les prières, les produits autorisés, les fêtes juives, les synagogues, le Mikvé, le Nitzan Magazine, être alerté en temps réel des temps forts de votre communauté, l'application officielle incontournable du Consistoire de Nice en téléchargement libre sur l'Apple Store et Google Play et sur www.consistoirenice.org.
RCN, écoutez le monde qui bouge.
La voix du Consistoire. Événements, actualités, Torah, invités et jeunesse, Maurice Nidam sur RCN.
Shabbat Parashat Vayeshev que nous lirons dans toutes les communautés dès demain. Et nous sommes le Shabbat juste avant Hanouka. On allume les bougies ce soir sur la Côte d'Azur à 16h35. 17h43, la fin de ce Shabbat demain soir. La voix du Consistoire avec notre très cher président du Consistoire de Nice, Maurice Nidam, qui est dans le grand studio à RCN. On aura deux invités. On va commencer par la directrice administrative du Consistoire de Nice, qui est aussi dans le grand studio RCN. J'ai nommé Karen Israël. Et puis en deuxième partie, en partie thématique, nous recevrons le grand rabbin de Nice et région, le Rav Franck Daniel Teboul. On va parler, ben oui, du 25 qui se lève, c'est-à-dire de Hanouka. Voici le programme. Et oui, toujours aussi chargé, je sais, mon service, c'est beau.
Mais je pense pour notre plus grand plaisir. Oui. Et donc bonjour mon cher Yossi, bonjour très chers auditeurs. Bonjour Karen.
Bonjour.
Très heureux de te voir voilà, dans ce studio.
Moi aussi. Voilà. En très bonne compagnie.
Merci.
Elle a couru, hein, il fallait qu'elle prenne le bus, le tram et tout pour arriver, je ne dis pas. Non, je rigole, le bureau était juste à côté. mais ça fait plaisir. Je salue, comme je le fais à chaque émission, vous le savez, mon cher Maurice, et vous me rejoindrez à notre ami Marc Benvenis qui nous écoute. Oui. Et on lui souhaite une grande réfouchelema et on espère l'entendre ici dans cette émission très prochainement.
Réfouchelema, mon cher Marc.
Voilà. Alors, on va parler de Cap Israël. Ce n'est pas un dessin animé. Pas, voilà, on n'est pas dans du Superman, c'est Cap Israël. C'est un programme qui est destiné aux étudiants.
Tout à fait.
Voilà, vous l'avez lancé avec toute une équipe, avec des partenariats. Brièvement, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore écouté la grande interview à ce sujet, ça consiste en quoi?
Alors, Cap Israël, c'est un projet pour faire passer aux premières terminales post-bac, donc tous les étudiants, les psychométriques afin de pouvoir entrer dans une université ou un technion en Israël, puisque la majorité des écoles en Israël nécessitent de passer cet examen et de pouvoir avoir un certain nombre de points et accéder aux universités et aux études en Israël.
Ça coûte cher, la question qui tue?
Non, ça coûte pas cher, tout simplement parce qu'on a un super partenariat avec l'Organisation Sioniste Mondiale, Avizana, Yael David, Moshe Cohen, sont nos partenaires et qui nous permettent de pouvoir subventionner un maximum cette opération. Alors je dis opération, mais en fait c'est une porte ouverte vers l'avenir aussi, puisqu'on ouvre aujourd'hui, on ne referme pas demain, c'est-à-dire que l'année prochaine on recommence et les années suivantes aussi. Donc pour parler de la douloureuse, hein, comme on dit toujours, alors c'est un programme qui coûte 300 €.
D'accord.
Il y a 80 € qui sont dits caution, c'est-à-dire qui sont remboursés au moment où l'enfant ou l'élève passe l'examen, en tout cas se présente à l'examen. Donc au final, ça coûte 220 €. Et on peut, s'il y a des difficultés, parce que mon but à moi, c'est pas de freiner par rapport au côté financier. S'il y a une petite difficulté, bah, que les gens viennent vers moi et on trouve toujours des solutions de toutes les façons pour toute notre communauté et pour que nos élèves puissent passer ça de façon sereine et efficace.
C'est beau, hein? Oui.
J'espère que le consistoire prendra toute sa part dans la subvention.
Oui, c'est déjà le cas, ça a déjà été le cas. On a une famille qui était en difficulté, qui voulait absolument faire passer, et on a pris en charge plus de la moitié de la somme pour qu'ils puissent s'inscrire et passer les psychométriques cette année. Donc au fur et à mesure, on avance. Après, on a des projets pour l'année prochaine, mais pour pouvoir permettre d'agrandir ce projet-là, d'inclure ça dans un programme pédagogique carrément au lycée hors Torah, que ça soit déjà inclus chez eux. Et là, effectivement, on va solliciter un petit peu le consistoire et d'autres partenaires pour pouvoir faire en sorte que ça soit presque gratuit même pour les parents, afin qu'ils puissent accéder à ça plus facilement encore.
Alors, je pense qu'il faut, il faut préciser des choses parce que beaucoup de parents ignorent donc ce psychométrique. Mmh. En quoi il consiste ?
Alors, c'est un examen qui se passe à l'écrit. Il y a trois matières, maths, français, anglais. C'est sous forme de QCM, pour la plupart, à part en français où il y a une petite rédaction. Et le but, c'est pas, il n'y a pas de réussite ou de ne pas réussite. C'est-à-dire qu'on obtient un certain nombre de points en fonction de la note qu'on obtient. Et ces points-là permettent de rentrer dans telle ou telle université. Mais l'avantage aussi, c'est que c'est pas figé. C'est-à-dire qu'on obtient son nombre de points. Ces points-là sont valables entre 5 et 7 ans. Donc ça veut dire que l'élève, il n'est pas obligé de partir tout de suite. Il peut partir dans un an, deux ans. Il peut commencer ses études en France et puis se rendre compte que finalement, bah, Israël, c'est notre pays et c'est là qu'il faut aller. Donc du coup, il peut revenir sur sa décision, garder ses points et partir en Israël avec ça. Une fois qu'il arrive en Israël, il peut repasser les psychométriques, c'est à volonté en fait, pendant tout le cursus scolaire en fait israélien. Et ça permet d'augmenter son nombre de points pour pouvoir rentrer là où on a envie d'aller. Donc il y a des programmes comme Massa, comme d'autres programmes encore, qui proposent de passer les psychométriques aussi par leur biais à eux. Donc ça donne un double avantage pour nos élèves qui partent de Nice, parce qu'ils savent de quoi ils parlent, ils ont déjà passé l'examen, ils ont déjà des points. Il y a tout pour que ça fonctionne, en fait. C'est ce qu'on appelle une alia réussie.
Absolument.
Parce qu'on les accompagne du début à la fin, qu'une fois arrivés en Israël, ils sont pris aussi en charge parce que bah, l'Organisation Sioniste Mondiale est présente. Et du coup, ça permet aux enfants d'avancer sereinement. Et puis les parents aussi, ça leur permet de savoir que leurs enfants, ils sont encadrés, ils sont pris en charge, que les cours sont faits en Zoom. Donc ça veut dire que où que je sois, bah, en fait, je peux suivre mes cours, il n'y a pas de problème. Bref, il n'y a aucune limite à cet examen. Et il n'y a que des avantages, en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, 5 à 7 ans, bah, ça laisse le temps de réfléchir. Finalement, c'est quoi ? C'est une clé en plus sur mon trousseau pour partir en Israël. Voilà. J'ouvre une porte. Après, ils veulent passer la porte, ils peuvent. Ils ne veulent pas, ce n'est pas grave. Parce que ça reste un examen. Ça reste un entraînement supplémentaire. Et même dans les études supérieures... Je le sais parce que mon fils, quand il est parti à Paris, il a commencé ses études, il m'a dit « Maman, c'est que des QCM, j'ai pas l'habitude de faire ça. » Là, l'avantage, c'est qu'on les habitue déjà dès maintenant. Donc ça veut dire qu'ils partent avec un bagage supplémentaire, un petit truc en plus dans leur sac à dos. Et je pense que c'est une bonne chose parce que aujourd'hui, au vu de la conjoncture, on peut pas se permettre de ne pas préparer nos enfants à partir.
Mmh. Quel a été le déclic, Karen Israël, pour ce programme de Cap Israël, parce qu'il y a bien eu un déclic.
Oui.
Voilà, vous n'êtes pas levé un matin en disant
allez,
tiens, si je faisais les psychométriques. Non, je les ai déjà fait. Voilà, non, mais sérieusement, qu'est-ce qui vous a motivé?
C'est très simple. J'ai, grâce au consistoire, participé à un voyage avec le KKL au mois de juillet sur l'éducation. Et lors de ce voyage, je me suis rendu compte en fait que le consistoire n'avait pas sa place comme je pensais qu'elle l'avait. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'on est une mairie annexe, qu'on vient juste chercher un papier, qu'on vient juste tamponner quelque chose, qu'on vient juste déposer un dossier. Et je me suis dit non, le consistoire, c'est plus que ça. Ça doit être au cœur de la communauté. Et donc, au cœur de la communauté, pour moi, c'était les jeunes, c'était les étudiants, les lycéens, les collégiens aussi, parce qu'on fait aussi beaucoup de choses pour les collégiens. Et de là, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est le plus important pour un jeune ? De savoir ce qu'il veut faire plus tard ou de savoir où est-ce qu'il va aller plus tard. Et finalement, bah, la question, elle a eu tout de suite sa réponse. C'était pour moi Israël, j'en revenais. Et c'était pour moi une évidence. Quand j'ai vu toutes les structures qu'il y avait en Israël pour les jeunes, je me suis dit, mais c'est magique en fait.
Ouais.
Un jeune, il arrive en Israël, il veut devenir ingénieur, et ben on va lui donner toutes les possibilités pour le faire. Il veut monter une start-up, et ben il y a des boîtes pour ça. Et il y a un encadrement et un truc. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons tellement... C'était vraiment, mais prenant. Et les gens, là-bas, sont tellement accueillants. Alors oui, la vie, elle est dure. Oui, c'est vrai. Là-bas, c'est un peu... tu avances et tu avances. Tu te lèves et t'avances. Mais d'un autre côté, il y a aussi cet encadrement qui fait que bah, ça marche, quoi. Ça fonctionne. Absolument. Ça fonctionne.
Mmh. Si je peux, j'avais été lors d'un voyage en Israël. On était allé visiter le parc industriel de Tefen.
Tout à fait.
Et Tefen, ça a cette particularité pour les personnes qui sont à l'écoute. Cette particularité, c'est que ça donne la possibilité à des jeunes qui ont des brevets éventuels, etc., de s'installer tout aux frais du parc industriel. Le parc industriel ouais. prend en charge donc les frais d'installation, de promotion, et d'évolution, jusqu'à temps que
la personne puisse être directement mise dans
le système. Son idée devient rentable. À ce moment-là, il s'installe dans un parc industriel qui est à côté et c'est lui qui finance les nouveaux arrivants.
Ah oui, donc c'est une boucle, mais c'est génial.
Une boucle.
Bien comme concept, voilà. Ça.
Alors, il y a la même chose avec une autre association. Je sais parce que Teddy, donc mon fils, est rentré là-dedans. Et en fait, il devient le parrain d'un jeune qui rentre dans l'armée, qui est pas forcément, c'est pas forcément facile. Et il y a une grande soirée où, par exemple, Teddy a rencontré son parrain. Et ce parrain-là était lui-même un jeune soldat. Et quand il a réussi sa vie, eh ben, il a dit, moi aussi, je veux m'investir. Et du coup, il est devenu partenaire. Donc, mais c'est ça, Israël, en fait. C'est, tout se résume Absolument. À ça. C'est, je suis là pour toi quand tu en as besoin, mais je veux que tu avances aussi seul et je veux que tu puisses te débrouiller. Parce qu'il faut quand même savoir se débrouiller un peu aussi.
Oui. Absolument. Les inscriptions sont ouvertes.
Oui, mais elles vont malheureusement bientôt fermer.
Voilà.
On est obligé de mettre une date butoir, hein, c'est sûr. Donc, on part sur du début janvier, on va dire aux alentours du 10-12 janvier, on va devoir clôturer ça. Donc, je vous informe d'ailleurs que première semaine de janvier, je vais organiser une réunion d'information ici au consistoire. Donc, évidemment, vous êtes tous les bienvenus. Ça sera sur inscription, bien sûr. Mais ça permettra aux parents qui ne sont pas à Nice, qui sont à Cannes ou ailleurs, de pouvoir se renseigner sur ce projet et peut-être potentiellement inscrire leur enfant encore dans les temps.
Voilà, absolument. Et puis se renseigner aussi, parce que même si son enfant n'est peut-être pas encore... ça va arriver, c'est toujours bon d'avoir toutes les informations, parce que je suppose qu'après Cap Israël, il y aura Cap Israël 2.
Oui, il y aura 2.0.
2.0 avec une nouvelle version, avec des nouvelles choses. Quel est le retour que vous avez des parents parce que je sais que ça défile dans votre bureau. Il y a beaucoup de...
C'est très simple, c'est une super idée, un super projet, il faut continuer. Moi, j'ai que des éloges sur ça, parce que en même temps, c'est évident, on travaille pour eux, donc on est là pour ça. Ouais. Et c'est notre rôle aussi. Hein. Moi, quand je suis arrivée au consistoire, mon rôle, c'était surtout de dire je suis là pour la communauté, je suis là pour aider celui qui en a besoin. Et si mes idées, elles peuvent faire que ça fait naître quelque chose, tant mieux. Voilà.
En tout cas, ça donne à notre jeunesse une alternative.
Exactement.
Ils ont la possibilité, effectivement, de faire ce choix. Et en général, de tous les jeunes qui, après leur service militaire, intègrent ces universités, ils sont là pour bosser. Pour réussir, donc ils n'ont pas le temps, ça badine pas.
Non.
Voilà, c'est ça qui est formidable.
C'est ça.
Donc les parents, ça rassure les parents.
Tout à fait. Moi, je suis là pour rassurer les parents. J'ai moi-même deux enfants qui sont partis en Israël, donc je sais ce que c'est que de voir des enfants partir. J'en ai deux à Paris. Donc machinalement, je me projette avec ces parents qui voient leurs enfants partir. Mais je vois aussi que mes enfants sont tellement bien en Israël. Ils sont épanouis. Ils sont chez eux, ils peuvent vivre leur judaïsme comme ils l'entendent. Manger kasher, c'est pas un problème. Ouais. En fait, rien n'est un problème quand on est juif là-bas, c'est évident. Tout ce que nous, on a comme contrainte ici, de faire Shabbat, de manger kasher, d'aller à la synagogue, bon, des fois c'est un peu loin, des fois c'est pas pratique. Là-bas, en fait, tout est fait pour. Il y a toujours une synagogue à un coin de rue, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc c'est ça qui est bien aussi. Et même pour les gens qui sont pas forcément religieux, c'est quand même notre terre et il faut apporter sa pierre pour faire un édifice. Chaque pierre compte. Donc, et je pense que Cap Israël est un beau rocher pour la future jeunesse de Nice. Et j'appelle même les parents des enfants de seconde à venir à cette réunion parce que, comme l'a si bien dit aussi, aujourd'hui, ça ne les concerne pas, mais demain, ça les concernera.
Bien évidemment.
Forcément, à un moment ou à un autre.
Voilà. Je voudrais, ma chère Karen, qu'on dise à nos auditeurs que dans quelques jours, c'est la fin de l'année, le 31 décembre.
Tout à fait.
Vous avez la possibilité de régler vos dons et de pouvoir défiscaliser tous ces dons puisque vous recevrez en retour 66% du don que vous donnerez.
Exactement.
Donc, je vous engage à contacter Karen si vous avez besoin de d'informations pour le versement de votre bol à la communauté. Sachez que chaque euro qui est versé est adroitement utilisé.
Oh que oui, on a une longue liste, une très longue liste. Mais, voilà, donc... mais chaque don est utilisé à bon escient et se dirige toujours vers un endroit où on en a besoin, de toutes les façons.
Absolument, absolument.
Voilà. Absolument.
Et bien sûr, je voudrais juste un clin d'œil aux personnes qui souhaiteraient léguer quoi que ce soit à la communauté, tout ou partie de son bien, de ses biens. On a la possibilité, effectivement... De lui donner toute l'information voulue. Je les engage à se rapprocher de toi, ma chère
Avec
Karen.
Avec plaisir.
Donc, vous les appelez au consistoire au 04 93 92 11 38. J'ai encore le réflexe du numéro de téléphone. Enfin. Et donc, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec Karen et de venir lui expliquer tout
Avec
ce que vous
plaisir.
Pouvez faire pour votre... pour votre communauté.
Oui, on a mis sur le site donc l'information, mais s'il y a des questions, qu'ils n'hésitent surtout pas à revenir vers moi, on est là pour ça.
Exactement. Et sur le site, vous avez, alors je le rappelle souvent, parce que comme c'est une nouveauté depuis quelques semaines, vous avez la page contact qui a complètement été modifiée, qui vous permet de rentrer directement en contact avec le département que vous souhaitez. Donc ça arrive directement, c'est-à-dire que si vous envoyez un email à la directrice administrative, donc Karen Israël en l'occurrence, eh bien, on va rentrer dans le clair, il y a qu'elle qui le verra, donc ça arrive directement, ça bip sur son portable, ça vous permet directement de rentrer en contact, et puis il y a la même chose aussi pour la réservation des espaces, puisque le consistoire a aussi ses heures de fermeture, donc vous pouvez, c'est quelque chose qu'on a mis en commun avec Karen, et une nouveauté, vous pouvez réserver vos espaces directement, et si le consistoire est fermé et qu'il est 23h, vous voulez réserver un espace, vous pouvez le faire et vous êtes mis en contact dès le lendemain matin avec le ou la responsable. Voilà, il y a plein de nouveautés, voilà, allez-y, puis ça continue, ça va continuer.
Voilà. C'est pas fini.
En tout cas, vous pouvez écrire à Karen directement, n'hésitez pas, posez-lui toutes les questions. J'ai entendu dire qu'elle était très sympathique, donc n'hésitez pas.
Ça, c'est une
c'est une rumeur. Une rumeur.
C'est une rumeur, c'est une rumeur.
Voilà. Quelques mots pour Hanouka, Karen, avant. On va parler de Hanouka avec notre grand rabbin, mais on va vous laisser parce que sinon je vais avoir un coup de téléphone. Il va me dire ma femme doit rentrer à la maison, c'est Shabbat.
Hanouka, la fête des lumières, évidemment. Hein. Je souhaite de la lumière dans tous les foyers de la communauté, bien sûr. Et aussi beaucoup de lumière en Israël parce que je sais qu'ils en ont besoin aussi. Hein. On a passé des moments compliqués, tous ensemble et tous réunis, et voilà. Et puis, dimanche, on a à Michelet donc, l'organisation de la fête pour les enfants à partir de 14h jusqu'à 17h avec l'allumage de la bougie. La première bougie de Hanouka, c'est important. Première bougie, c'est toujours un symbole pour moi, en tout cas, de début et de renouveau. Voilà. Donc, j'aime cette fête parce que justement, elle est joyeuse, en fait. Il n'y a que des miracles, il n'y a que de la joie, en fait. C'est la fin, c'est exactement ce qu'on a vécu, c'est la fin des moments compliqués et la lumière qui jaillit et exactement. Qui fait que aujourd'hui, on est sur un nouveau monde. Donc tout est à construire, tout est à faire et j'invite chaque personne qui le souhaite à venir participer à cette journée.
À partir de quelle heure ?
À partir de 14h jusqu'à 17h au centre Michelet. Donc il y aura château gonflable. Animation pour les enfants, barbe à papa, pop-corn, des beignets évidemment, parce qu'on ne peut pas faire Hanouka sans beignets, hein, c'est sûr, un peu d'huile, hein, comme si on en manquait déjà beaucoup. Mais,
moi qui avais pris des bonnes résolutions, faire du sport et
non,
tout.
Non,
ouais, voilà. Si tu peux te plaindre, toi tu es...
Oui, voilà.
Vous rigolez, vous rigolez.
Je pense que toi, tu es un des rares qui peut se permettre de manger quelques beignets.
Du poids, et
problème.
Puis Karen me dit quoi ? Allez, viens à la fête.
Oui. J'ai inscrit son fils. Alors, par contre, si vous souhaitez venir avec vos enfants, il faut inscrire vos enfants. Ça va être un petit peu compliqué d'appeler directement le consistoire, mais bon, on peut se débrouiller. De toutes les façons, il y a toujours de la place pour les enfants.
Ouais.
Et s'il faut, on pousse les murs, de toutes les façons.
Le consistoire toujours là pour vous.
Exactement.
Merci beaucoup, Karen, d'avoir
avec
pris du temps sur vos chalotes de Shabbat et vos couscous.
Merci, Maurice, de m'avoir laissé participer à ton émission. Voilà. C'était un plaisir.
Et vous êtes vous êtes à la maison, mais venez sincèrement, venez quand vous voulez. C'est bon d'entendre
plaisir.
Des bonnes nouvelles.
Oui.
Ça fait du bien.
Oui, tout à fait.
Bravo.
Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. On va partir en musique de Hanouka avec la musique moderne. Je sais que Maurice aime bien les nouveautés modernes. Alors ça, c'est tout nouveau. Ça s'appelle... Hanouka Light. Bon, voilà, le titre était facile. Et c'est tout nouveau, c'est sur Internet. On vous mettra le lien sur les réseaux du Consistoire. Ça bouge, c'est pour Hanouka, ça va nous mettre dans l'ambiance puisqu'on a notre grand rabbin dans un instant. Voilà. Tout va bien ? C'est bon ?
Super.
On y va. Merci Karen, Shabbat Shalom.
Merci beaucoup, Shabbat Shalom à tous.
Voilà, ça s'appelle Hanouka Song Light Am Israël. On va vous mettre, promis, le lien dans quelques minutes sur les réseaux du consistoire de Nice pour que vous puissiez eh bien, écouter ces belles musiques israéliennes sur Hanouka. Il est 12h30.
La voix du consistoire. Événements, actualités, Torah, invités et jeunesse. Maurice Nidam sur RCN.
Nous voici à l'approche immédiate de la fête de Hanouka, puisque nous allumerons la première bougie ce dimanche soir, 14 décembre, 25 qui se lève, dans le calendrier hébraïque. Alors, cher Franck Teboul, grand rabbin de Nice et région, tout d'abord je vous remercie d'être notre invité dans le cadre de cette émission, la fête de Hanouka qui commémore un miracle, parle à toutes et à tous, quels que soient leurs âges. Pour ouvrir cette émission, je souhaite en préambule vous poser plusieurs questions. Alors, pourquoi ce vaste ensemble qu'est le Talmud mentionne-t-il peu le miracle de Hanouka en dehors de passages de traités comme Shabbat ou Ta'anit, si on regarde précisément? Qu'est-ce qui fait la particularité de cette fête? De quoi parle-t-elle exactement et précisément? Et puis, ne peut-on pas parler aussi de plusieurs miracles, Rav Teboul?
Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup. Bonjour à Maurice et bien sûr à Yossi. Merci à tous les auditeurs voilà, d'être ici, d'être présents. Pour répondre à vos questions, bonne fête de Hanouka dans la joie et la santé. Pour rappeler un petit peu l'historique quand même, nous sommes en période du Deuxième Temple. On est en moins 168 à peu près. Donc le Deuxième Temple est là. Il y a une guerre qui explose avec l'armée gréco-syrienne. Et on sait que cet exil-là va durer 180 ans. C'est pas rien, quand même. Et les Grecs vont interdire plusieurs choses, parmi lesquelles l'interdiction de pratiquer le Shabbat, l'interdiction de pratiquer la circoncision, c'est-à-dire le lien avec Dieu, et bien sûr, il y aura l'interdiction de Rosh Chodesh, de ne pas pratiquer la néoménie juive, et forcément, lorsqu'on retrouve cette fiole d'huile le 25 qui se lève, on comprend, d'après les lectures, par exemple, du Maharal de Prague, c'est dans la Gemara, effectivement, de Shabbat à la page 21, mais il y a une lecture intéressante du Maharal de Prague qui nous explique, en substance, que allumer la bougie, c'est tout d'abord retrouver le lien intrinsèque avec Dieu. C'est-à-dire ce que les Grecs ont voulu faire, c'était couper ce lien qui transcende un petit peu l'être et qui nous relie à Dieu. Et en rallumant cette flamme, eh ben, on essaye de rétablir le lien profond avec Dieu en se rappelant que le terme nerf, c'est-à-dire la bougie, ça forme les mêmes initiales que Nefesh et Ruar, les deux premiers niveaux de l'âme. Voilà un petit peu les explications générales sur la fête de Hanouka.
Je voudrais dire combien je suis heureux d'ouvrir cette émission en cette deuxième partie du mois de Kislev avec notre grand rabbin, Rabbi Daniel Frank de Boul, qui est aussi pour nombre d'entre nous Rabbi Daniel, effectivement. Avec tout le sucré qu'on doit avoir dans la bouche quand on prononce son nom, tellement on est heureux.
Merci, Maurice.
De l'avoir parmi nous. Je veux saluer sa présence toujours chaleureuse auprès de nos fidèles, sa profonde érudition et sa grande disponibilité pour notre communauté azuréenne et pour la vie civile de l'ensemble de notre territoire azuréen. Rabbi Daniel, nous savons que la fête de Hanouka pose la question de l'hellénisme en tant qu'ennemi de l'intégrité du judaïsme. Que cherchaient les Grecs exactement, en plus des interdictions qu'ils imposèrent, et que nous incite-t-il à préserver par-dessus tout? Sur quoi reposait le caractère incompatible entre la sagesse grecque et les valeurs éternelles de la Torah?
Merci beaucoup, très cher Maurice, pour ces différentes questions, et merci encore pour cette invitation. C'est avec grand plaisir, comme d'habitude. Alors, pour répondre à toutes ces questions, il y a beaucoup, beaucoup de questions, hein. C'est pas évident. Alors, je vais commencer par la question que cherchaient les Grecs exactement. En fait, au-delà des interdictions qu'on a évoquées, le Shabbat, la circoncision et la pratique du Rosh Chodesh, quelque part, c'était de perturber le lien qui nous relie avec Dieu. C'est-à-dire que cet exil-là va durer quand même 180 ans. L'exil babylonien, on a eu quatre exils dans notre histoire. Nous sommes dans le quatrième, celui de Édom, qui est en train de durer à peu près 2000 ans. Mais ce troisième exil, quand même, il dure 180 ans. Et le Maharal de Prague, il explique, il dit que la conséquence du troisième, c'est le quatrième exil. C'est-à-dire que le quatrième exil, celui de Édom, la destruction du temple, eh ben, son idéologie, sa philosophie, elle prend source dans le troisième exil. C'est-à-dire de considérer que les prophètes ont disparu, historiquement parlant, donc ce sont les philosophes qui vont les remplacer. Or, le philosophe, c'est quoi? C'est de réfléchir le monde, la vie, la société, à travers l'homme lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien intrinsèque avec Dieu. Lorsqu'il y avait les derniers prophètes jusqu'au début du deuxième temple, Haggai, Zecharia, Malachi, il y avait un lien profond avec le divin, avec la spiritualité. Lorsque ce lien-là est rompu, eh ben malheureusement, il n'y a plus de relation directe avec Akadosh Baruch Hu, et c'est l'homme qui doit décider. Ben regardez, c'est un sujet de société, d'actualité. Réfléchir à la fin de vie, par exemple, l'euthanasie, c'est l'homme qui va réfléchir sans forcément avoir une position spirituelle ou alors divine dans ce sujet. Lorsqu'on va parler de l'avortement, lorsqu'on va parler de tous les sujets sociétaux, eh ben c'est l'homme qui va réfléchir. Et donc les Grecs, dans leur philosophie, dans cette culture, en partant depuis Platon, Aristote, Socrate, ils ont considéré que était fini ce temps-là où il fallait s'en référer au divin. Il y a un passage dans la Gemara de Sanhedrin qui nous explique que les rabbins du Sanhedrin, les 70 sages, eh ben, il siégeait dans une pièce qui s'appelait Lishkat Agazit, qui était non le temple, c'est-à-dire la pièce de la pierre taillée littéralement, et elle était présente dans le temple, comme si on disait que les rabbins qui allaient décider de la société, eh ben, ils devaient prendre source à partir du temple, à partir de Dieu. Et aujourd'hui, on vit dans une société où on n'a plus ces références. Donc l'homme est livré à lui-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est peut-être négatif, demain sera positif et inversement. La Torah, elle a un rôle qui est universel, qui transcende, qui traverse toutes les générations. Et donc en rallumant cette flamme, quelque part, on veut rétablir le lien intrinsèque avec Dieu et celui qu'on ne peut pas enlever, celui de la Neshama, celui de l'âme.
Monsieur le grand rabbin, vous l'avez dit hein, d'ailleurs dès le début de votre propos, la lutte menée par nos aïeux fut couronnée de succès, les vaillants combattants parvinrent à restaurer le temple, ce qui constitua le but ultime hein, de leur soulèvement. Alors est-ce que on peut opérer un lien avec les vaillants qui vinrent le 7 octobre 2023 au péril de leur vie, protéger les civils et les militaires dans les kibboutzim attaqués dans une atroce violence par les terroristes du Hamas, et nos soldats partis afin de libérer nos otages dans les tunnels creusés par ce même Hamas terroriste, ne sont-ils pas aussi dignes descendants de nos vaillants? Nous savons, hein, d'ailleurs, monsieur le grand rabbin, qu'aujourd'hui, nombre d'Israéliennes et Israéliens subissent des traumatismes nés du 7 octobre, avec un effet retard qui reste très fort. L'étude de nos textes sacrés, alors ne s'inscrit-elle pas aussi comme une réponse bienfaisante, en plus des magnifiques actions de solidarité menées par les grandes et aussi, il faut le mentionner, les petites associations?
Alors c'est intéressant comme remarque et comme question que vous posez, très cher aussi, c'est-à-dire le lien avec les vaillants qui vinrent le 5 octobre 2023 au péril de leur vie. Et effectivement, c'était celui de protéger les civils et les militaires dans les kibboutzim. Effectivement, c'est toujours en rapport avec le mal, avec l'atrocité, avec aujourd'hui, malheureusement, le terrorisme. On a tous vu ces vidéos qui nous font froid dans le dos, qui nous émeuvent, ces vidéos des otages du Hamas qui vont allumer la Hanoukia au sein des tunnels. C'est-à-dire qu'au cœur même, vous savez, on a expliqué avec eux aussi dans nos émissions que les fêtes imposées par les rabbins tombent souvent en hiver, comme par exemple Pourim, c'est la fin de l'hiver, Hanouka, on est au creux même de l'hiver, c'est-à-dire au creux même de l'obscurité. On a vu dans la paracha la semaine dernière la lutte entre Yaakov et Esav pendant toute la nuit, et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch rappelle que la nuit, ça fait référence à l'exil, à l'obscurité, à l'obscurantisme de tous ses ennemis, alors du 7 octobre évidemment, en remontant à Hanouka avec les Grecs, eh ben, qui veulent éteindre la flamme du peuple juif. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne se doutent pas, c'est que plus on essaye de l'éteindre, cette identité, cette culture, et notre appartenance à Dieu, à Israël, à la Torah, et plus le juif se réveille dans son identité. Et c'est ça la flamme. La flamme, elle est merveilleuse, parce que le combat entre Yaakov et Esav, ça veut dire avec toutes les ennemis qui représentent en quelque sorte l'antisémitisme. Et ça, c'est une grande partie de l'antisémitisme qui est parfois et souvent viscéral, qui est irrationnel, on a du mal à comprendre. On veut couper ce lien avec Dieu, comme l'a dit le Maharal tout à l'heure, et nous, au contraire, on se renforce dans cette identité. Je voudrais juste faire une parenthèse en vous disant, avec Maurice Nidin, président du Consistoire de Nice, on a eu quand même énormément de retours positifs de gens de la communauté qui se sont réveillés avant le 7 octobre, heureusement, mais surtout après le 7 octobre, et qui sont venus voir le président, voir les rabbins, en l'occurrence, en disant « mais je voudrais revenir à mon identité juive, à une identité communautaire aussi, au rôle que le juif doit jouer dans la société, et qu'est-ce que on peut apporter dans la communauté, dans la société ?» Ça veut dire que il y a eu le combat réel des forces de Tzahal contre le terrorisme, mais au-delà de ces combats qui ont été très importants, et vous savez qu'on les bénit tous les Shabbats à la synagogue, c'est les soldats de Tzahal, il y a surtout un sursaut du peuple juif en Israël et en Galoute en diaspora, où on essaie de retrouver cette identité. Et c'est peut-être ça, le fait de poser la chanoutia vers l'extériorité, vers la fenêtre, vers la porte d'entrée, dans certains cas de figure, pour montrer que le peuple juif doit apporter de sa lumière. Le peuple juif, il doit garder sa hauteur. Vous savez, on doit se défendre parce que c'est la légitime défense. On doit combattre les ennemis, on doit combattre les terroristes. Mais au-delà de ces combats-là, le peuple juif sait garder de la hauteur, sait se remettre en question et essaye de trouver constamment le lien avec l'histoire. Et moi, j'emploie toujours ce terme, vous le savez aussi, de l'historiosophie, de la philosophie de l'histoire. On essaye de retrouver un lien intrinsèque avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé après le 7 octobre.
La lumière est un symbole permanent de la Torah, particulièrement présente à Hanouka. Dans le désert, le tabernacle contient l'Arche d'Alliance qui occupe la place la plus sainte. Elle-même renferme le candélabre d'or pur alimenté par l'huile d'olive, tout aussi pure. Cher Rabbi Daniel, combien de branches contenait le candélabre et comment était-il constitué? Que symbolise-t-il pour nous encore aujourd'hui?
Merci beaucoup, très cher Maurice Sinem, pour cette question merveilleuse. Et je voudrais souhaiter une grande réfléchie les mains à notre ami Mordechai Benveniste, qui est tout le temps présent, tout le temps là pour nous préparer, pour nous aider, et lui souhaiter ainsi qu'à sa maman, à ses parents, de manière plus générale, une grande réfléchie les mains. Amen. J'ai une grande pensée pour lui ce matin, et j'espère qu'il nous écoute et qu'il sera content de ces quelques mots. On l'associe dans notre très chère émission. Alors, pour répondre à votre question, le candélabre, vous le savez, dans le temple, était composé de 7 lampes. Et vous le savez très bien, puisque la Hanoukia est composée de 8 branches. Alors, il y a un symbole qui est très fort, que nos rabbins nous révèlent. La Hanoukia, vous voyez, on disait tout à l'heure que c'est la nuit, c'est l'exil, c'est la dureté de l'hiver, c'est la dureté de la longueur aussi de cet exil qui dure près de 2000 ans, et bien justement, c'est le seul symbole qu'on a gardé du temple, après la destruction du temple, c'est celui de la Hanoukia. Pourquoi? Parce que c'est resté allumé 8 jours, et le Maharal de Prague explique que le chiffre 7 est celui dans la création, le chiffre de la création, 7 jours de la création, le chiffre 8 est celui qui nous relie à l'infini, ce qui nous relie à Dieu. Et bien justement, on a voulu dire que dans cet exil qui va être long, qui va être dur, qui va être composé de pogroms, de persécutions, on va garder cette flamme qui représente aussi l'espoir du peuple juif. C'est pour ça qu'elle est composée précisément de 8 branches.
Un édit de Cyrus permit aux Juifs de se reconstituer. Hanouka devint la fête de la lumière, de la joie et de la foi. Cette fête, qui se situe cette année à la jonction de l'automne et de l'hiver, est devenue l'apanage des enfants. Outre ces enseignements, on peut aussi dire qu'elle les console des frimas de l'hiver. Mais n'oublions pas leurs parents qui non seulement participent à leur joie, mais ressentent également la progression de la lumière de jour en jour.
Eh oui, cher Maurice, car les adultes aussi prennent une pleine part, monsieur le grand rabbin Franck Teboul. Quel rôle et quel est surtout le rôle des parents durant les 8 jours de Hanouka et puis les bienfaits qu'ils peuvent ressentir?
Écoutez, pour moi, c'est la question la plus importante, c'est celle-ci. C'est celle, et Maurice le sait très bien, c'est celle de la transmission. Dans Hanouka, ça veut dire inauguration du temple, parce que le temple avait été souillé, il n'avait pas été détruit à l'époque du deuxième temple, lors de cette guerre avec le régime gréco-syrien. Mais Hanouka, vous le savez, vient de la racine de Chinour, c'est-à-dire de transmission, de l'éducation. Et autour de la Hanoukia, c'est magnifique parce que on va chanter, on va danser, on va dire des mots de Torah. Il y a l'hiver à l'extérieur, il y a la chaleur du foyer à l'intérieur. Et on sait très bien que nos rabbinis nous encouragent, même si on a des enfants parfois qui s'écartent de la communauté. On a des enfants ou des petits-enfants parfois qui sont un petit peu en recherche identitaire, qui ont des crises d'adolescence. On sait très bien qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont cette flamme du peuple juif. Et je crois que c'est la question la plus importante de toutes les missions, c'est celle-ci, c'est de savoir comment on éduque, qu'est-ce qui va se passer autour de cette Hanoukia. On va pas juste allumer et ensuite regarder la télévision, pas du tout, on va rester quelques instants, on va essayer de faire comprendre aux enfants, au-delà des danses et des chants, et éventuellement des cadeaux, on va essayer de transmettre quelque chose. Hanouka, c'est Chinour, ce que les Grecs, ce que nos ennemis ont voulu tout au long de l'histoire, c'était de casser cette chaîne. Et nous, ce que l'on veut, lorsqu'on célèbre un mariage, une bar mitzvah, une bat mitzvah, une nomination, une brit mila, et ben on essaye d'installer de nouveau ce lien avec la jeune génération en leur disant « Vous avez un rôle à jouer. » Et c'est à vous que revient cette responsabilité d'une transmission. Et notre rôle à nous, en tant que parents et grands-parents, c'est d'être un des maillons de la chaîne, Shalshelet HaKabbala, qui s'installe à travers toutes les générations. Et je crois que c'est le rôle principal des fêtes juives et surtout de la fête de Hanouka.
L'hymne universellement connu de Hanouka, Maos Tzuri Shorati, est une poésie rituelle qui rappelle les délivrances miraculeuses que le maître de l'univers a accordées au peuple juif. Chaque couplet, formé de 8 versets, 6 syllabes, chacun, l'espoir exprimé par les 8 lumières de la fête, recèle une multitude de références bibliques. Le chant et la voix ne représentent-ils pas, cher Rabbi Daniel, une part importante de nos solennités et de nos fêtes?
Justement, très cher Maurice Idam, vous savez très bien que le mot Maos Tzur que l'on chante le jour même de Hanouka et tous les soirs de Hanouka représente les 4 exils. Quand vous reprenez, alors il faudrait faire un cours un peu plus long, mais pour vous le dire rapidement, quand vous reprenez chaque strophe, en réalité chaque strophe, elle fait allusion à un exil particulier babylonien, ensuite la Perse, ensuite la Grèce, celui de Hanouka, et celui de Edom. Et donc on chante cette victoire à travers le symbole de l'histoire. Finalement, ce que l'on va retenir de cette histoire est évidemment le Maos Tzur. Maos, il y a une dimension de force et de puissance dans le mot Oz, et je crois que c'est la puissance du peuple juif.
Alors, que la nuit sera tombée ce dimanche et les 7 autres jours, nous allons procéder à l'allumage qui réchauffe le cœur, cet allumage qui va réchauffer aussi l'âme. L'espoir est le plus fort parce que la délivrance vient toujours. Plus de 20 siècles après l'effet générateur de la fête de Hanouka, notre espoir est aussi que nous puissions tous travailler dans la vraie paix. Je vous remercie, cher grand rabbin de Nice et région, Rav Franck Daniel Teboul, bien évidemment Maurice Idam, président du consistoire de Nice, d'avoir avec nous approfondi ce beau miracle de Hanouka.
Merci à vous deux, et merci à l'ensemble des auditeurs et auditrices du Rabbi Shalom Nitzan.
Shabbat Shalom, Rabbi Daniel.
Shabbat Shalom.
Et on va s'écouter un petit bout de Maos Tzur, puisque vous en parliez avec notre cher Rabbi Daniel Maurice, cet hymne de Hanouka, par la chorale des enfants d'Ashdod. Voilà, donc Hanouka, c'est dimanche soir, l'allumage de la première bougie. Il y a bon nombre d'événements, allez sur le site du consistoire à Denis, mais je pense que la majorité d'entre vous sont déjà inscrits. Rendez-vous demain dans toutes les synagogues respectives autour de votre domicile, ou même un peu plus loin, en tout cas celle où vous avez l'habitude d'aller, c'est important. C'est le Shabbat avant Hanouka, c'est une aussi grande paracha. Et puis voilà, que peut-on rajouter de plus sur Hanouka? Rien,
en tout cas. De la lumière.
De la lumière. Juste avant de partir, je voudrais quand même qu'on revienne un instant sur ce qui s'est passé cette semaine, puisque Steve Suissa, Rachel Kahn étaient présents dans notre belle cité, comme dirait quelqu'un, et donc à Nice, et puis ensuite à Cannes pour les grands tournants. Nous étions tous les deux, hein, d'ailleurs, à Nice, cher Maurice, dans cette grande salle. Et voilà, donc un magnifique spectacle
une performance d'acteur.
Ah oui, oui, mais époustouflant.
Et Rachel Khan était exceptionnelle. On soulevait des foules, puisque de mémoire, je n'ai jamais vu le CUM rempli.
Oh, c'est rempli. Ouais.
Là, non seulement il était rempli, mais il y avait des gens debout. C'est incroyable. Et c'était une ovation complète parce que on était sous le charme de ces deux acteurs de génie, parce qu'il faut pouvoir avoir inventé
tout ce système, et puis c'est tous ces textes qui nous ont été un petit peu, enfin même plus qu'un petit peu, remémorés. Voilà, il y en avait pour tous les goûts. Et puis voilà, on a traversé les époques avec cette machine à remonter le temps, c'est ça.
Absolument.
Surtout que Steve Suissa nous a permis d'avoir. Bon, Steve Suissa, qui n'est plus à présenter, mais il faut quand même préciser que c'est un acteur, mais c'est surtout un producteur et un excellent, je pèse mes mots, metteur en scène. Et vraiment, voilà, il a un génie en tant que metteur en scène. Hein, c'est le mot. Vous avez raison de l'employer, Maurice.
Et je voudrais saluer, remercier Franck Israël,
oui,
qui a été le promoteur de ce passage en région, et qui a voulu effectivement, avec le président du Conservatoire central, que le maximum de villes en France puissent bénéficier de ce magnifique moment d'espoir, ce magnifique moment de vérité.
C'est le mot. Moment de vérité. Voilà, on était ce matin avec Franck Israël en interview live, et il nous a dit qu'il y a encore des surprises à venir. On aura du Steve Suissa qui va revenir, mais pour d'autres choses, on le laissera le soin à lui. C'est normal d'annoncer ce qu'il devra annoncer. Voilà, donc il y a des choses qui se préparent. Soyez toujours au rendez-vous. C'est des beaux moments. Et voilà, et encore bravo à Rachel Khan et Steve Suissa, et bien sûr Franck Israël, pour cette grande performance. Voilà. On va se terminer là-dessus.
Shabbat shalom, mon cher Yossi. Merci.
Shabbat shalom. Avec plaisir.
Merci de ton... Tu rehausses toujours au plus haut ces belles émissions du Consistoire.
On essaye. Voilà. Et pas que, toute la radio, mais on essaye. Voilà. C'est notre travail pour la communauté. Parce qu'on
merci
a,
beaucoup. Vraiment.
On n'a qu'un seul objectif, c'est la communauté. Voilà. Et c'est important. Merci en tout cas. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Rendez-vous dans toutes vos synagogues, et que de bonnes nouvelles. Et on se retrouvera avec notre cher président Maurice Hinam la semaine prochaine, pour une nouvelle thématique.
Absolument.